Non, mais bien, bien, bien. Puis je pourrais pas te dire. Sais qu'avec ce que je savais, j'ai donné une mauvaise information à Sergio. Je voulais aller la voir, puis j'ai dit qu'elle sortait cette semaine. C'est ce qu'elle m'avait dit sur le coup.
Ils l'ont gardé plus longtemps, ils n'ont pas capable de faire. En fait, c'est qu'on l'a discuté, toi et moi, non? Ils m'ont dit ça en vrai.
OK.
Ouais.
Constance, il fait. D'accord. On a manqué un cours, regardez le nombre qu'on se retrouve. OK. Deux heures juste, on va donner un 2 ou 3 minutes aux personnes. On va commencer suivant ça. Donc, si vous voulez bien, on a déjà dépassé un peu. On va tout simplement incliner la tête, remettre ce temps d'étude entre les mains du Seigneur. Puis, suivant ça, on va tout de suite aller dans notre sujet. Seigneur, merci. Seigneur, merci au Dieu du privilège que nous avons, Seigneur. D'avoir ta parole pour nous diriger, pour nous guider, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous donner l'occasion de regarder, d'étudier, Seigneur, de prendre en compte ce que ta parole a à nous dire pour notre avancement personnel, Seigneur, pour l'avancement de ton Église. Seigneur, toi, Seigneur, qui peux faire toute la différence dans cette étude. Seigneur, donne-nous grâce sur grâce, Seigneur. Fais-nous croître à travers l'étude de ta parole, Seigneur. Donne à ton peuple l'essor. L'essor nécessaire, Seigneur, pour prendre, Seigneur, son envol en toi, Seigneur. Seigneur, c'est avec toi, par toi, Seigneur, et pour toi, Seigneur, que nous sommes là, Seigneur, ne nous lassant, Seigneur, pas de prendre, Seigneur, d'étudier, de mettre en pratique ta parole. Bénis, Seigneur, les bien-aimés qui sont ici, Seigneur, ainsi que ceux qui vont écouter par le différé pour apprendre, Seigneur. Je remets, Seigneur, toutes choses entre tes mains. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Donc, soyez tous et toutes les bienvenus. La semaine dernière, nous n'étions pas là, hein? Ayant eu une urgence, mais nous allons reprendre où nous avions laissé. Vous allez tourner dans le livre aux Éphésiens. On était toujours dans le chapitre 1 d'Éphésiens et on était rendu au verset 19, mais juste pour nous retremper dans le sujet, nous allons prendre le verset 17-18. On prend 17, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Donc, on avait vu pas la semaine dernière, mais l'autre semaine avant la révélation de sa connaissance, on avait regardé qu'est-ce qui a été illuminé de la parole de Dieu. On a vu l'espérance qui s'attache à son appel et nous étions aussi en train de voir quelle est la richesse de la gloire, de l'héritage qui nous est réservé. Si vous vous rappelez bien, je vous avais parlé au niveau d'héritage. Qu'est-ce qui était un héritage? Et si vous vous souvenez bien, je vous avais dit que, et à la fois, Dieu nous donne un héritage, et à la fois, nous sommes un héritage nous-mêmes pour Christ, c'est-à-dire pour son propre ministère qui était mené sur la terre. Verset 19, je vous ai dit que je ne m'attarderai pas longtemps, où on est rendu. Quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc, on continue un peu dans la même pensée qu'on s'était laissé. C'est-à-dire, où il va dire que nos cœurs soient éclairés par la puissance qui est mise à notre disposition ici, hein, qu'elle est envers nous, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, c'est-à-dire nos cœurs éclairés, mis à la disposition de Dieu. C'est le seul, d'ailleurs, un des seuls endroits dans la Bible où le superlatif, sa force, à la fin, avec efficacité, par la vertu de sa force. Et nous savons que notre Dieu ne manque pas de moyens. On manque pas de force. Sa force est active dans les proportions qu'on ne peut à peine ou pleinement, si vous voulez, saisir. Et je vais prendre l'exemple de la vie de Paul pour vous montrer la force que Dieu donne dans le Seigneur. La force que Dieu nous donne, l'efficacité. Cette efficacité-là que nous ne pouvons pas avoir sans Christ, mais qu'avec Christ, on peut aller au-delà tout simplement des capacités humaines. Donc, verset 19, « Nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste, sa puissance se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. » Paul, au moment où il écrit ses lignes, Paul est en prison à Rome. Si vous vous rappelez bien, quand je vous ai parlé au début et je vous ai dit où avait été écrit l'épître aux Éphésiens, une épître d'ailleurs qui est très fortifiante, très encourageante, Paul l'a écrit à Rome pendant le temps où il était gardé prisonnier. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 32, que Paul à Éphèse, ça n'avait pas été facile. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 32, Paul va dire, « Si c'est dans les vies humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revienne-t-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » La force que Dieu donne peut être de beaucoup supérieure à la force. Je ne parle pas de force physique, là. Je parle des capacités. On ne sait pas en vue de quoi le Seigneur nous fait faire des fois certaines choses. Je témoignais au frère, au pasteur Bernard et à son épouse comment l'étude, si vous voulez, qu'ils ont mis en place au cours des années pour s'occuper des couples. Vous rappelez bien qu'avant la pandémie, c'est eux, je les aidais, mais c'est eux qui avaient mis en place tout le cours pour les nouveaux mariés. Cours que j'ai repris, oui, avec quelques petites modifications, somme toute cosmétiques, là. Mais le cœur du cours reste là. Et je regardais un peu. Eux ne s'en doutaient pas, moi je m'en doutais pas, un peu comment c'est en train de prendre de l'emphase. Maintenant qu'eux sont un peu plus au repos, un peu plus âgés, un peu plus peut-être faibles dans leur corps, le ministère que le Seigneur nous a donné continue à faire des petits, continue, lui, à donner une impulsion vers l'avant. J'ai commencé à donner ce cours-là tout simplement pour les aider, tout simplement pour qu'ils puissent se reposer un peu. Et tranquillement, pas vite, les choses sont en train de s'étendre. Maintenant, je l'enseigne, voire dans plusieurs pays, par le truchement des plateformes Zoom. Là, on m'a demandé un peu d'aide dans le coin de Burkina Faso, Burundi aussi, où on m'a demandé de m'occuper de des couples qui sont là-bas. Je suis certain que le pasteur Bernard et son épouse ne pensaient pas en écrivant ces lignes-là, en regardant la mécanique, et en faisant ces choses-là, qu'un jour, malgré leur fatigue, que leur propre ministère continuerait à produire. Et moi, je peux le voir sous mes yeux. Comme je vous dis, j'ai apporté quelques petites choses, mais somme toute cosmétiques à leur cours. Leur cours était assez complet. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est qu'on ne sait jamais ce que le Seigneur va faire à travers notre propre travail. Mais Dieu peut nous donner la force, peut nous donner la résilience. Et même si la force physique n'est plus là, l'œuvre, elle, qu'on a amorcée, peut très bien se continuer. Et Paul va parler dans Corinthiens, chapitre 15, verset 32, va dire, si c'est dans des vies humaines, on va dire, si c'est juste par ma force à moi, si c'est juste pour les choses humaines. Puis là, ce qu'il va dire, il y a deux interprétations, que j'ai combattu des bêtes ou des fauves à Éphèse. Quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent point? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Paul parle de ce qui s'est passé un peu ici à Éphèse. Est-ce que vous savez que Paul était un homme de la même nature que nous? Et pourtant, quel grand ministère. En tout cas, je ne connais pas quelqu'un qui pourrait se comparer au CV de Paul. OK, soyons clairs, si je peux m'exprimer ainsi. Son CV nous est donné dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 11. Je vous en fais une lecture des versets 23 à 27. Paul va dire, « Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je lui suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort, 5 fois J'ai reçu des Juifs 40 coups moins un. Trois fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. Trois fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose. Il dit, je ne vous parlerai pas du reste. Sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Paul n'est pas en train de nous parler d'une vie facile. Paul n'est pas en train de nous parler d'une vie qui est complaisante. Là. Si vous regardez ce que je vous ai lu là, vous voyez que, ben, en tout cas, je connais personne qui était lapidé personnellement. Là. Oui, peut-être lapidé avec la bouche, là, avec des paroles, mais personne qui était véritablement lapidé. Regardez tout ce qu'il dit de ce qui lui est arrivé dans son propre ministère. Je crois qu'il fallait que le Seigneur lui donne de la force. Il fallait que le Seigneur lui donne la force nécessaire pour passer à travers tout cela. Et il finit au verset 28, après tout ce que je vous ai lu là, il dit, sans parler des autres choses. Donc, que Paul ne parle pas d'une vie facile où tout est bien, qui finit bien. Il connaît quel est le poids de la persécution, de la faim, de la honte publique, du rejet par sa nation, du rejet des autres, du rejet même des chrétiens. Paul a été trahi par de faux frères, on va être clair. La mesure humaine de sa vie n'est pas insignifiante, là, soyons clairs. La vraie mesure du travail de Paul va se retrouver dans l'éternité. Donc, lorsqu'on parle de l'infinie grandeur, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'un christianisme à rabais ou d'un évangile à l'eau de rose, comme je vous ai déjà dit. L'infinie grandeur de sa puissance se manifeste naturellement à travers les situations auxquelles nous sommes confrontés, à travers les situations auxquelles on doit faire face. Donc, le chrétien qui s'attend à ce que la vie chrétienne soit un jardin de roses, peu importe ce qu'on nous a dit, peu importe ce que la façon dont tu as été amené à l'Évangile, la parole de Dieu, elle, ce n'est pas ce qu'elle nous dit. Elle nous dit que la vie chrétienne est une lutte. Elle nous dit que la vie chrétienne est difficile. D'ailleurs, les gens qui disent « Ah, les chrétiens, ils croient en Dieu parce qu'ils prennent Dieu comme une béquille pour faire une vie plus facile. » Je vous dirais que c'est l'inverse. Ça prend des hommes, des femmes décidés pour suivre Jésus. Il faut qu'on s'appuie sur l'infinie grandeur de sa puissance. Pourquoi? Parce qu'on doit faire face à ce que des gens dans le monde ne font pas face. On nage à contre-courant, là, soyons clairs, nous. Le monde va dans un sens et on monte le courant. Donc, oui, on est sujet à la moquerie venant des gens, voire à une certaine persécution. On est sujet à être regardé comme des extraterrestres, soyons clairs, bien que ce n'est pas tout à fait faux. Mais ce que je vous dis clairement, c'est que pour vivre la vie chrétienne, on a besoin de l'infinie grandeur de cette puissance. Parce que la vie chrétienne peut être une vie difficile. Et il y a de nos frères et de nos sœurs qui mènent encore des vies plus difficiles que vous pouvez trouver, que vous menez. Peu importe les petites difficultés auxquelles on peut être confronté, que ce soit vos capacités que vous mettez au service de l'Évangile, qui sont utilisées pour l'Évangile, ou toute autre ressource que le Seigneur peut mettre à votre disponibilité. Nous devons nous appuyer sur la grandeur de sa puissance et non pas rechercher la facilité. Comme je vous ai dit, je ne vous parle pas d'un évangile pépère, où vient Jésus, tu peux t'asseoir à ton banc. Oui, il y a des gens qui prennent la vie chrétienne de cette façon-là. Paul, ce n'est pas l'exemple qu'il nous donne. Et je vais en venir, là je prends Paul, mais je vais en venir à comment vivre, comment les chrétiens défaillent, à quoi ces gens-là ont dû faire face pour mener vie chrétienne. Je vous ai dit dans le préambule que j'avais fait au début du cours qu'Éphèse était une ville, somme toute, où il y avait des difficultés à mener vie chrétienne, parce que ces gens-là nageaient vraiment contre-courant. Ces gens-là étaient vraiment en porte-à-faux avec la vie coutumière tous les jours des autres Éphésiens, là. Et ça a dû être difficile pour eux. Donc, comment vivre la vie chrétienne? Par l'infinie grandeur de sa puissance, dans la partie A du verset 19, qui va se manifester par l'efficacité de la vertu de sa force en nous. Est-ce que quelques-uns de nous manquent de force? C'est Christ qui donne la force. Peut-être que vous avez eu des moins bonnes nouvelles par les temps en qui courent. C'est Christ qui peut glorifier son nom. Nous devons faire vie chrétienne. Et tantôt, je vous disais que la vie chrétienne est une vie qui peut être plus difficile. Je disais à un moment donné à quelqu'un, c'est bien plus facile de dire, il n'y a rien après cette vie-ci, on est comme une fleur qu'on coupe. Je n'ai pas de compte à rendre et faire la vie qu'on veut. Et à la fin, on va nous euthanasier comme un chien ou un chat. Là. On appelle ça mourir dans la dignité. Au lieu que quelqu'un dise, je vais mener une vie conforme à la parole de Dieu, je vais fournir les efforts et rendu en bout de piste, je sais que je dois me rendre devant Dieu. Donc, je vais être conforme aussi en ma mort. C'est un peu plus difficile. Un peu plus difficile à faire vie parce qu'on va à contre-courant. Quand je parle de vivre la vie chrétienne, comment la vivre? S'investir là où ça compte. Quand j'ai pris ma retraite, j'avais des choix moi aussi à faire. Comme vous avez des choix à faire, si on prend juste des choix qui nous complaisent. J'ai dit quoi l'autre fois à l'Assemblée, et je sais que les choses, des fois, peuvent mal passer quand je dis l'homme par nature, l'homme, la femme, mesdames qui êtes aussi dans la salle, vous êtes concernés. L'être humain, par nature, est paresseux. On aime les shortcuts, on aime bien, mais ce n'est pas ça à quoi Dieu nous appelle. Le Seigneur nous appelle à mener une vie active pour lui, à être engagé pour lui. Et s'investir là où ça compte, ça ne veut pas dire que chacun d'entre nous va devenir un pasteur, va devenir un enseignant, va devenir un évangéliste. Mais ça veut dire que chacun d'entre nous doit mettre sa vie sur l'autel. Chacun d'entre nous doit mener sa vie chrétienne. S'investir là où ça compte. Quelque part, quelquefois, j'ai l'impression qu'on vit peu cette puissance-là parce qu'on investit peu dans le royaume de Dieu ou dans l'œuvre de Dieu. Et ici, là, que personne ne se sente coupable, je me parlerai à moi le premier. On va être clair. Souvent, cette puissance-là, on la voit peu parce qu'on investit peu. On s'investit peu dans le discipulat, peu dans l'évangélisation, peu dans la prière, peu dans l'étude. Et là, je parle de l'Église avec un grand E. Là. Je ne parle pas de notre Église. On doit faire notre propre examen de conscience, si je peux dire ça de cette façon-là. Mais la parole de Dieu nous dit, ni plus ni moins, que le Seigneur veut nous donner. Dieu donne la force. Est-ce qu'on se complaît dans autre chose? Est-ce qu'on s'investit bien dans le Seigneur? Et comme je vous ai dit, je ne veux pas là, je veux pas que les gens sortent d'ici, là, je ne veux pas vous mortifier, je ne veux pas que vous sortiez d'ici attristés. Mais par contre, je crois que jusqu'à un certain point, il y a des saines questions à se poser. Est-ce qu'on a droit au repos? Bien oui, on a droit au repos. Est-ce qu'on a droit quelquefois à un certain âge? Ben oui, tout à fait. Notre corps récupère et ainsi de suite. Mais à quoi nous passons la majorité de notre temps? La question est à se poser dans cette époque-ci de l'humanité où l'homme n'a à peu près jamais possédé autant de temps libre que maintenant. Maintenant, les semaines de travail sont raccourcies. Avant, les gens travaillaient beaucoup d'heures. Et je me demande jusqu'à où on investit bien notre temps. Ceux d'Éphèse ont dû faire face à plusieurs choses parce que ces gens-là s'investissaient. Ce n'est pas pour rien que Paul, dans les versets qu'on a pris plus haut dans les semaines qui sont passées, où Paul, en fait, leur adresse un vibrant témoignage à leur foi, si vous voulez. Et ces gens-là ont subi la moquerie, le rejet. Est-ce que, d'après vous, est-ce qu'ils regardaient leur propre intérêt ou l'intérêt de l'œuvre? Se mettre à genoux, prendre du temps de prière, demande un effort. Soyons clairs. J'ai connu peu de personnes qui prenaient du temps au jeûne et à la prière sans effort. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire qu'il y a des tâches, si vous vous sentez incompétent, qui requièrent l'infinie grandeur de cette puissance dont il nous est parlé là, ce verset-là 19. Ça nous demande de s'investir nous-mêmes. Ça nous demande de demander à Dieu la sagesse nécessaire, la puissance nécessaire, s'investir soit dans un groupe de prière, d'évangélisation, se mettre au défi, exemple, de lire la Bible en un an, de l'étudier. Vous savez, quand on est dans une église, souvent on devient redevable les uns aux autres. Dans mon propre ministère, il y a des gens qui viennent me voir avec certains besoins ou d'autres qui ont certaines choses à partager, voire de mauvaises habitudes à régler dans leur vie. Et ces gens-là, en venant me parler, eh bien, se rendent redevables. Ils savent qu'un jour ou l'autre, le pasteur André va se présenter devant eux autres et va dire « Avec telle chose, où tu en es rendu? » Et le fait d'être redevable va donner une impulsion que j'appelle vers l'avant parce que la personne sait, mais aussi va donner aussi à la personne la force de faire ce qu'il faut qu'elle fasse. Je m'explique, pour venir à bout de son mauvais penchant ou d'un péché récurrent dans sa vie. Lire la Bible, prier, être redevable, c'est construire notre vie chrétienne. Le pasteur Florent disait ce matin, si quelqu'un lit sa Bible une fois par semaine, que son seul temps de prière dans une journée, c'est de prier avant de manger. Pour moi, ce n'est même pas un temps de prière, ça. Hein? C'est une action de grâce. Seigneur, je te rends grâce pour la nourriture que tu donnes. Prier, c'est autre chose. Prier est un temps à part. Prier, c'est autre chose. Prier, je vous dirais, ça va même plus loin que s'arrêter et dire au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de ci, j'ai besoin. Prier, c'est s'oublier soi-même et prier pour le besoin des autres. La prière devrait aller jusque-là. intégrer une vision spirituelle à votre vie concrète, à votre vie de tous les jours. Vous savez, c'est l'une de mes frustrations, je vais appeler ça comme ça, dans la relation d'aide. Vous savez que je fais de la relation d'aide, puis une de mes frustrations, c'est de voir des personnes qui viennent me voir avec certains problèmes personnels, et que ça n'empêche pas les personnes de venir me voir. J'ai droit à mes petites frustrations personnelles. Et de voir que les gens viennent me voir avec des problèmes personnels et que la Bible balise très bien le problème qu'ils ont. Et il y a des gens qui viennent me voir et ils me disent, « Pasteur, je rencontre tel ou tel problème, soit dans le foyer, soit personnel. » Et je leur dis, « Mais la Bible dit telle chose. La Bible balise très, très bien. La Bible leur dit exactement quoi faire dans ce problème-là. » Ces gens-là me disent, « Ouais, je le sais, mais avec moi, ça ne fonctionne pas. » Moi, je suis un cas spécial. Ça ne fonctionne pas avec moi. Soyons clairs, là. Ça veut dire que ces personnes-là ne s'appuient pas sur l'infinie grandeur de sa puissance. La Bible devrait être toute suffisante pour les besoins de nos vies. La parole de Dieu devrait avoir une prise sur nous. Je vous relis le verset 19. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité, pas juste se manifestant, mais avec efficacité par la vertu de sa force. Si ce verset-là est vrai dans ta vie, si ce verset-là trouve appui dans ton âme, je ne dis pas que tu n'auras pas besoin d'aller voir un pasteur une fois de temps en temps pour te demander direction, mais cette direction-là qu'on te donne à travers la Bible, il ne faudrait pas qu'elle soit rejetée du revers de la main en disant « Ah non, moi, je ne suis pas capable de faire ça. Ah non, moi, mon cas est plus spécial. » Quand je vous dis que c'est une des frustrations que j'ai, des gens viennent me voir quelquefois et ils attendent. Quelqu'un dernièrement à qui je fais affaire, qui est en Allemagne, et qui me demandait si j'avais une formation en psychologie. Je dis, ce que je vous offre est un aide pastorale. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir certaines connaissances de la psychologie humaine, mais soyons clairs, la psychologie humaine, sans ça ici, sans la parole de Dieu, reste tout à fait au niveau de l'humain, de l'humanité, voire des principes de base. Il y en a qui n'aiment pas ça que je dis ça comme ça. Mais la parole de Dieu veut nous faire cheminer dans une vie spirituelle, une vie qui va au-delà que des simples besoins de votre chair, besoins de votre esprit. Vous avez une chair, mais vous avez un âme, vous avez un esprit aussi, qui va au-delà. Et quand je vous dis que c'est une des frustrations que j'ai, c'est que la personne voudrait que je les aide, et bien, ils veulent avoir en fait un psy qui ne lui coûtera pas 130 $ de l'heure, soyons clairs. Je veux dire, on peut aborder certaines choses. Comme je disais à un couple qu'on m'avait référé, je ne peux que vous aider que dans la mesure d'une Bible. Je peux vous donner certains trucs pour fonctionner avec vous, mais ce que je vous ai, ce que je vous offre, ce n'est pas du counseling tout simplement. Ce que je vous offre, c'est du counseling avec une Bible. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit d'un couple? Comment un couple doit fonctionner? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de l'humain? Comment on doit se comporter pour mener une vie qui soit adéquate? Donc, il y a des gens qui me disent à moi, « Ouais, mais pour moi, ça ne marche pas. Ouais, mais les choses fonctionnent mal pour moi. » Je ne suis pas capable de mettre en pratique la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on prend certains versets de la parole de Dieu et on va minimiser la portée, le verset 19, chapitre 1 d'Éphésiens, entre autres. Vous savez, j'ai un ordinateur à la maison. Vous savez, je suis même rendu avec deux ordinateurs. Quelqu'un qui est venu chez moi, un couple dernièrement, « Hey, dit le pasteur, il est rendu technologique. J'ai un ordinateur là, j'en ai un en face de moi. Les zooms à une place, mes notes à l'autre. » Et ainsi de suite. Donc, je sais comment ça marche. J'ai appris certaines notions, mais il y a quelque chose que je sais pertinemment. Je ne profite pas de tous les avantages de mon ordinateur par un manque d'intérêt. Je le sais, hein? Par un manque de connaissance. Mon manque de connaissance vient parce que j'ai un manque d'intérêt. C'est la pandémie qui m'a le plus poussé à ça. À cause de la pandémie, je me suis mis à enseigner par Zoom. Là, sur de ça, je ne pouvais pas avoir toujours le frère Lionel, je ne pouvais pas l'avoir toujours collé avec moi, puis il me dit, il faut que tu apprennes certaines choses de base. Je vais faire ça le plus simple possible pour toi, André. Je le sais que tu n'aimes pas ça. Je le sais que tu ne connais pas ça. Mais il va falloir que tu apprennes certaines choses, que tu te verses un peu dans certaines choses pour pouvoir donner ce que tu as à donner au peuple. Et ma pensée, c'était dès la fin de la pandémie, j'arrête tout ça, je redonne l'ordinateur. Je recommence à faire exactement ce que je faisais. Et j'ai compris que ça n'arrivera pas de cette façon-là. Donc, je dois m'adapter. Je dois m'adapter. Un ordinateur, mon fils me disait, écoute, tu connais les fonctions de base. Il dit, tu es plus habile pour écrire parce que tu sers d'un ordinateur comme tu servais d'une machine à écrire. Mais il dit, il y a des choses qui sont beaucoup plus longues de la façon que tu les fais. Il y a des raccourcis pour faire des choses. Là, il me montrait des choses qui ont fait que j'ai pu un peu accélérer le pas. Mais qu'est-ce qui serait arrivé si j'aurais refusé d'apprendre? Non, 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 c'est pour 6 mois. Dans 6 mois, il n'y aura plus de pandémie. On met tout ça aux poubelles, puis on recommence comme avant. Eh bien, ça fait plus que 6 mois. Ça fait même plus qu'un an. Et je ne crois pas que ça va se terminer avec le début de l'année de 2022, soyons clairs. Et 2, je n'aurais pas été capable de donner pleinement ce que j'avais pour le peuple, j'aurais dit non, non, non. Il y a certaines choses qu'il faut accepter. Bien, la parole de Dieu, elle a une infinie grandeur par sa puissance, mais si on ne veut pas y investir, vous comprenez ce que je veux vous dire? Si on ne veut pas y investir, si on ne veut pas, même dans les choses qui nous déplaisent, obéir à la parole de Dieu va avoir moins de prise sur vous. La parole de Dieu va avoir moins de prise sur votre devenir. Soyons clairs. Et l'infinie grandeur de sa puissance se manifeste si on utilise ce que Dieu met à notre disposition. Ce que Dieu met à notre disposition en vertu de la force qu'il nous transmet. Tantôt, je vous donnais l'exemple d'un ordinateur. C'est un outil qui est à ma disposition, un ordinateur. J'en ai même 2. Parce que quand la pandémie a démarré, on a voulu mettre une caméra sur mon ordinateur. C'était tout vendu. Naturellement, tout le monde s'est rué là-dessus. Et Lionel était obligé de dire, ben, écoute, on va être obligé d'en acheter un avec une caméra intégrée. Et il m'a amené ça. Là, dernièrement, la semaine dernière, mon garçon m'a dit, ça n'a pas d'allure, là, l'écran que tu as, tu sais que tu as des problèmes de vision, il m'a amené un gros écran incurvé. Là. Puis il dit, je t'amène ça, je l'installe chez vous, là, tout. Là. Il dit, faut baisser la résolution, lui. Il dit, il manque des bouts de page. Là. Mais les gens essayent de m'ajuster, mais il faut que moi, j'y mette, j'y investisse du temps, de l'apprentissage, de l'écoute. Quand les gens me disent, ouais, tu touches tel bouton puis tel bouton pour faire un copier. Il faut que je sois là, je prends des notes, j'écoute. Pense à ça, il faut qu'il y ait une mise en pratique. L'infinie grandeur de sa puissance, par la vertu de sa force, ne se fait pas sans toi. Ne se fait que dans la mesure où toi, tu acceptes d'obéir à la parole de Dieu. Et c'est ce que les Éphésiens faisaient. Ils acceptaient d'obéir à la parole de Dieu. Dieu met, le Seigneur met à ma disposition de la puissance. Est-ce que je m'en saisis? Est-ce que je cherche à comprendre comment l'appliquer dans ma vie? Ou est-ce que ma vie chrétienne est juste la salle d'attente numéro 6 où j'attends que le Seigneur revienne me chercher ou que la mort m'emporte pour paraître dans sa présence? Ou est-ce que je mets en action ce que la Bible nous montre, ce que la Bible nous dit? De comprendre à appliquer un commandement de la Bible, même si ça semble trop dur pour toi, je vous donnerai un exemple. L'exemple du pardon. Il y a déjà des gens qui me disent « Oui, mais c'est dur de pardonner. » Au niveau humain, ça peut être vraiment difficile. Au niveau divin, le Seigneur peut nous donner tout à fait la capacité de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, à ceux qui nous ont outragés. Et c'est pour ça que je vous donne ces choses-là, parce qu'on va rentrer un peu dans ce qui se passait à Éphèse. Et vous allez voir qu'ils ne l'avaient pas facile, les Éphésiens. Il ne faut pas penser que Paul fait à peu près, d'ailleurs, même dans l'Apocalypse, écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, ainsi de suite, on voit que c'est une Église qui fonctionne assez dans les normes de l'Évangile, dans les normes de la Bible. Et il n'y a pas beaucoup de reproches qui sont faits soit dans l'Épître ou soit dans l'Église d'Apocalypse à Éphèse. Ce n'est pas parce que ces gens-là l'avaient facile. C'est parce que ces gens-là avaient pris une décision, regardaient la parole et disaient, si Dieu le demande, c'est à mettre en pratique. Il y avait, ces gens-là, une disposition, un vouloir. Et ils ne le faisaient pas que par leur force. Ils savaient que Dieu donnait la capacité, Dieu donnait sa propre force pour le faire. Il y a la femme d'un pasteur qui avait au-dessus de son lévier de cuisine, elle n'aime pas faire la vaisselle, un petit écriteau qu'elle avait mis sur les armoires qui disait Proverbe 31-31, elle lui fait du bien et non du mal. Quand je fais la vaisselle pour faire du bien à mon mari, soyons clairs. Et l'homme, lui, avait dans sa voiture un petit verset. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Soyons bien, bien clairs. Christ s'est sacrifié pour l'Église. Comment l'Église répond-elle à ça? Comment l'Église, et là, je ne parle pas de notre Église, je parle de l'Église avec un grand E, où je parle de nous personnellement, un par un. Comment on répond à l'œuvre de Christ? Comment on répond dans nos vies à cela? Aimer, exemple, son épouse avec constance, ça peut être difficile des fois. Comme les époux peuvent trouver ça aussi difficile. Respecter les gens quand ils sont irrespectueux envers nous, ça peut être difficile. Prendre soin des gens qui apprécient peu ou pas. Je visitais quelqu'un, puis elle dit, c'est bien que tu me visites, mais elle dit, mon pasteur, c'est pas toi. Mon pasteur, c'est tel pasteur, le pasteur Sergio. Je dis, écoute, il n'est pas disponible pour les enfants. Prends ce qui reste. Là. OK? Elle me dit, bon, mais c'est ça, il viendra te voir, le pasteur Sergio. Bye! OK? Ça peut être quelquefois plus difficile. Mais je crois que par sa force toute puissante, c'est possible. On va regarder certaines choses. Paul va s'appuyer dans les versets 20 à 23 sur certaines choses. Mais on va regarder dans le verset 20. On prend juste ce verset-là pour débuter. Là, on a vu le verset 19. Dieu déploie sa force. Il nous donne sa force toute puissante. Le Seigneur, dans le verset 19, il y a l'infinie grandeur de sa puissance qui va se manifester par sa force en nous, si nous décidons, comme je vous ai dit, d'y investir, d'y obéir avec tout ce que ça comporte. Le verset 20 nous dit, il l'a déployé en Christ. Il nous donne un exemple ici. En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Sa puissance, il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts. Et il y a toutes sortes d'histoires que je pourrais vous relever, dont une secte qui existait au Japon, là, où il disait qu'il ressuscitait des gens qui étaient morts. Je vais me demander si la police qui a arrêté ça. Parce qu'il y a des gens qui tombaient en décrépitude, ils étaient morts depuis trop longtemps, mais ils disaient non, ils sont toujours vivants. Ils dorment, ils sont en vie. Soyons clairs, c'est pas ce qu'on croit au niveau de notre humanité. Christ a la force, Christ peut ressusciter un corps, soyons clairs. Mais ce que je vous dis, c'est que sa force opérante ne veut pas dire qu'il va ressusciter quelqu'un. Il est capable de ressusciter quelqu'un. Il a ressuscité Christ. Ça doit montrer que Dieu est capable de tout. Ça ne veut pas dire parce que Dieu est capable de tout qu'il va faire tout. Donc, il ne faut pas prendre le verset 19 puis dire « on va l'appliquer à tout ». J'ai parlé avec une bien-aimée tantôt. Je vais prier pour toi mercredi. Je sais que tu as à subir un interne. Je vais prier avec toi si tu as besoin d'une visite. Je vais y aller. Et ainsi de suite. Soyons clairs. Dieu a donné de la sagesse, de l'intelligence aux médecins pour qu'ils prennent soin de nous. Puis bon, ils le font. Mais le Seigneur peut faire bien au-delà. Mais si Dieu ne nous dit rien, sa force, sa puissance peut se manifester à travers qui peut te garder. Dans une situation difficile. J'avais déjà fait une prédication qui s'intitulait, si vous vous rappelez bien, passer au travers de la tempête ou Dieu calme la tempête. Des fois, le Seigneur va dire, tu passes au travers. Ça peut arriver. Est-ce que Dieu manque de puissance quand il dit, tu passes au travers? Non, non, il est avec toi. Il est avec toi, au travers de la tempête. Dieu peut faire aussi, peut dire la tempête, suffit, plus de tempête dans la vie de telle personne. Donc, il ne faut pas calibrer, quantifier au niveau de ce qui nous arrive. Pourquoi je vous dis ça? Je vous ai montré la vie de Paul. On va regarder un peu la vie des Éphésiens. Jésus, ressuscité des morts par la force toute-puissance de Dieu. Donc, Dieu ne manque pas de force. Au verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, juste pour pas qu'on en doute, là, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc, le terme qu'on trouve ici, principauté, autorité, puissance, souveraineté, c'est tous des titres qui sont donnés à des démons ici, ou à des esprits rebelles envers Dieu et son plan, qui peuvent nous donner maille à partir. Quelle est, nous, maintenant, nos réactions? Quelle est, nous, est-ce qu'on s'occupe plus de nos problèmes ou plus de l'œuvre de Dieu? J'en arrive à quelque chose. Paul prend l'exemple de Christ ressuscité pour donner un encouragement aux Éphésiens. On va regarder quelque chose de fondamental pour les chrétiens d'Éphèse. Je vais vous réexpliquer un peu ce que je vous avais dit en début, mais je vais mettre mon emphase sur certaines choses qu'on avait vues quand je vous avais fait là, l'entrée en matière de l'Église aux Éphésiens. Éphèse était une grande métropole du monde gréco-romain. Okay? C'était une ville très superstitieuse, très spirituelle, entre parenthèses. Bien plus que bien d'autres villes. Éphèse était connue pour son Ephesia Grammata, c'est-à-dire les lettres d'Éphèse. qui était en 6 formules magiques à Éphèse, censé protéger des démons, selon ce qu'il disait. On les portait comme des amulettes. Vous savez, c'est quoi des amulettes? On les portait comme ça sur nous. On craignait dans cette ville-là terriblement les influences démoniaques, mais ils étaient sous influence. Le climat de superstition était si fort. C'est à ça qui étaient confrontés les chrétiens d'Éphèse, que la population dépensait une fortune pour acquérir des livres de magie, de sorcellerie, des livres de potions pour des guérisons, au point que lorsque les premiers chrétiens ont compris qu'ils étaient libres de tout cela, qu'ils avaient été tenus dans la peur, dans Actes chapitre 19, verset 19, il est écrit à propos d'Éphèse, « Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. » Et on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent, qui est une somme colossale. Donc, on peut voir que Éphèse était une ville spirituelle sous forte influence. Le monde des démons contrôlait cette ville-là. Les gens portaient des amulettes, avaient des petites statues d'Artémis ou de Diane. Vous rappelez-vous, quand on étudiait Actes des Apôtres, avaient des petits temples en or, parce qu'il était quelque chose, le temple d'Artémis. C'était une des sept merveilles du monde, là, du temps d'alors, qui nous est rapporté. Je vais vous montrer dans quoi ils baignaient. L'Église d'Éphèse. Et pourtant, ils ont été fidèles. Et pourtant, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Des gens qui me disent aujourd'hui, non, c'est trop dur d'une ville comme ici, il faudrait s'isoler pour vivre une vie chrétienne. Trop d'affaires qu'on voit, des panneaux publicitaires avec des choses qui sont choquantes. Il y a trop de choses. Non. Ces gens-là ont été capables de mener une vie chrétienne. Ils n'étaient pas différents de vous et moi. Là. Regardez bien. Le climat d'Éphèse, puis je ne parle pas de la température, le climat très magique, je vais dire ça comme ça, soutenu par la présence d'Artémis ou de Diane et de son temple, dont Antipatros considérait que le temple était une des sept merveilles du monde, couvrant 4 fois plus de surface que le Parthénon d'Athènes. Homère, pour ceux qui ont déjà lu, disait qu'Artémis était la maîtresse des bêtes sauvages. Les Grecs, eux, adoraient la même Artémis. Il a changé de nom, c'est tout. Comme la déesse de la lune et de la chasse. Elle était équipée d'un arc et elle hantait les forêts la nuit puis poursuivait les fauves pour les dominer. N'oubliez pas que Paul il dit qu'il a été jeté au milieu des fauves. Le petit Robert, lui, plus proche de nous, l'a décrit comme une vierge chaste, vindicative et cruelle. Ça, c'est le dictionnaire Le Petit Robert. À Éphèse, elle emprunte des différentes choses, dont le culte des déesses-mères. Et va ajouter un certain nombre de fonctions liées à la terre, au terroir. Sa présentation la montre couverte de mamelons. Chaque petite statue de Diane, une prêtresse avait invoqué, disait-on, des incantations pour lui donner son pouvoir et était associée à la fertilité de la terre. On a même trouvé un papyrus qui représente une prière qui lui a été adressée pour la résurrection d'un homme. Donc, vous voyez que ce n'était pas une petite chose, là. Et on pense aussi qu'il y avait des prostituées sacrées dans le temple qui la servaient de cette façon-là. Donc, les chrétiens avaient affaire à ça. Les chrétiens
en posant, on va quitter Éphèse. Les chrétiens ont fait le travail dans Éphèse. Et si vous vous rappelez ce qu'on avait lu dans Actes des Apôtres, il y a un certain Démétrius qui va se lever. Il va se lever contre Paul, puis contre les chrétiens d'Éphèse, parce que le commerce est en train de tomber. Vous vous rappelez, lui était un orfèvre avec d'autres du même métier. Il avait créé une guilde, OK? Et il s'aperçoit que l'industrie est en train de baisser. Et là, il va fomenter une révolte, ce qui pourrait être considéré par les Romains, parce que c'était une ville qui était tout de même sous juridiction romaine, qui peut être considéré comme une sédition. Et nous, on prend peut-être ça à la légère, mais une sédition, dans ces temps-là, c'était durement réprimé par Rome. L'autre fois, je regardais des nouvelles et il y a un homme, dernièrement, dans son pays. Si vous creusez un peu, vous allez vous souvenir, il a tenu un référendum illégal. Il s'est sauvé dans un autre pays. Il était accusé exactement de ça, d'avoir fomenté une sédition. Il va être emprisonné là, pour ça. Dans ce temps-là, les Romains arrivaient là, pouvaient mettre à mort des gens qui avaient fomenté la sédition. Puis ensuite de ça, ils laissaient une garnison là. Et c'est pour ça que le secrétaire, si vous allez lire dans Actes des Apôtres, le secrétaire va dire, on peut être accusé de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui. J'y reviens pas trop parce qu'on l'a vu quand on étudiait les Actes des Apôtres. Donc, les disciples, les chrétiens d'Éphèse baignaient là-dedans. Là. Leur vie est en danger. Et on voit l'épître aux Éphésiens. On voit ce que ces gens-là ont fait, ce qu'ils avaient à faire. Donc, que dirons-nous donc des Éphésiens? Fidèles, ne se sont pas pliés au goût, aux coutumes, aux façons de procéder de leur époque, même si la déesse Diane ou Artemis, tu pouvais être mise à mort pour sacrilège si tu y faisais obstacle. D'ailleurs, si on en fait la description, on voit que les horoscopes qu'on a aujourd'hui, eh bien, elle l'avait naturellement autour de son cou, comme un collier quand ils ont trouvé, en ont trouvé tout de même en faisant des fouilles archéologiques. Elle était appelée Soreta, Sorenia, c'est-à-dire sauveuse, Curia, Seigneur, Basilis, Cosmos. Règne du cosmos, ou plus exactement, ce qui va vous dire quelque chose à vous, règne du ciel. Ça devrait vous rappeler quelque chose. Elle règne sur toute la magie. Elle règne sur tous les autres démons. La déesse Diane, elle était partout, au cœur de toutes les institutions. On la retrouve en statue d'argent. D'ailleurs, ils ont trouvé même un papyrus qu'un officiel romain avait donné une statue en argent de la déesse qui devait être érigée dans les réunions plénières ou légales trois fois par mois et être priée. Elle était dans la vie privée des Éphésiens, dans la vie individuelle là, des Éphésiens. Elle était dans la vie politique, la vie civique. Elle était partout. Elle était partout. Aucune personne sensée à l'époque aurait osé défier la grande Diane. Se convertir à Christ était pas tout simplement renoncer à Diane, était à renoncer à une culture. J'essaie de vous faire voir, de vous faire saisir ce que les chrétiens d'Éphèse ont dû subir. une société qui était érigée sur la peur et sur la superstition. Renoncer à Diane, c'était renoncer à une certaine conception du monde d'alors pour en embrasser un autre. C'était faire quelque chose qui était risqué pour toi, pour ta famille, pour tes proches. Des chrétiens pouvaient regarder et il fallait qu'ils regardent, qu'ils comprennent tout ce qu'ils pouvaient perdre en quittant Diane pour s'en aller avec Christ, en laissant tomber Artémis pour s'en aller avec Christ. Ils peuvent perdre leur travail, ils peuvent perdre tous leurs amis, ils pouvaient perdre beaucoup de choses. Je pense que vous allez vous dire, mais c'est donc bien naïf dans ce sens-là de croire à une déesse et ainsi de suite. Soyons clairs, là. Les horoscopes sont plus populaires que jamais dans notre société. Selon ce qu'on sait, il y aurait une personne sur six qui consulterait régulièrement des 10 heures de bonne aventure, des gens qui lisent les horoscopes, qui les interprètent. D'ailleurs, soyons clairs, là, sont en train de reconstruire une basilique en France. Ils veulent la reconstruire dans les mêmes proportions. Ils veulent utiliser le plus les mêmes matériaux. Est-ce que vous vous rappelez comment ça s'appelle? Notre-Dame, la Dame de qui? Notre-Dame de Paris. On l'a en petit, nous, dans le Vieux-Montréal. Soyons clairs. Pensez pas que ce culte-là est disparu. Il a juste changé de forme. Soyons clairs. Il a juste changé de forme. Il était aussi appelé, par certains peuples, la reine-mère ou la déesse-mère Cybèle. On parle toujours de la même entité, je vais dire ça, de cette façon-là. Pourquoi je vous ai nommé Cybèle? Cybèle était considérée comme vierge. Sainte Vierge, Mère perpétuelle, qui sont un peu identiques à ce que les gens adressent à une autre personne qu'on définit comme la mère de Jésus, soyons clairs. Beaucoup de personnes, ça m'est arrivé aujourd'hui, je suis rendu là, je ne fais pas exprès, mais aujourd'hui, j'ai rencontré une personne qui m'a dit, tu sais, j'accepte Jésus, là, mais je ne suis pas sûr de vouloir abandonner certaines pratiques que j'ai. Et moi, je lui dis, fais attention avec ce que tu fais. Fais attention. On ne peut pas manger à deux tables. Et je lui ai parlé de certaines choses, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais beaucoup de personnes disent, j'arrête de prier Marie, puis ainsi, il peut m'arriver des malheurs, parce que je connais quelqu'un qui l'a fait, et elle s'est cassée une jambe, je vous dis n'importe quoi. Puis ces gens attribuent ça directement là. C'est une foi superstitieuse. Christ devrait être capable de nous libérer de ces choses-là. Même s'il est vrai que lors de notre conversion, on n'a pas abandonné le catholicisme pour s'en aller vers le protestantisme, mais parce que Jésus n'a pas amené une nouvelle religion, soyons clairs, mais on se convertit à Christ. Mais Christ demande certaines choses, dont d'abandonner certaines choses, dont de l'aimer et de le servir lui seul. Et ça, on ne peut pas le nier. On ne peut pas dire que, ouais, mais on peut faire ça aussi un peu. La Bible est claire, là. La parole de Dieu est claire. Jésus ne souffre d'aucune compétition. Il ne devrait pas entrer en aucune compétition avec quelque autre chose. Mais on sait bien que oui. On sait que chez certaines personnes qui se convertissent, il y a une compétition parce que ces gens-là n'ont pas tout cédé. Ils ont un certain respect, voire vénération qui amène d'ailleurs. Mais Christ ne souffre d'aucune compétition. Et l'âme, souvent, qui pratique deux types de culte, c'est l'âme qui souffre. Parce qu'elle se fait littéralement, vous comprenez ce que je veux dire, elle se fait déchirer. Ben, les chrétiens d'Éphèse avaient un choix à faire qui coûtait beaucoup plus cher que votre choix à vous. Là. Ils l'ont pas eu facile, les Éphésiens. C'est pour ça qu'il est intéressant de savoir et de noter pour vous que c'est dans la ville d'Éphèse, au lieu d'adoration de la déesse mère, qu'eut lieu en 431 le concile d'Éphèse qui déclara Marie, mère de Dieu. C'est là que c'est arrivé. C'est dans la ville d'Éphèse que c'est arrivé en 431. Allez voir l'histoire. Est-ce que vous pensez que c'est tout simplement un hasard? En 431, au concile d'Éphèse, Marie est déclarée mère de Dieu. Mère de Dieu, essayez de vous imaginer, là. C'est impossible, là. Mère de Dieu, on nous dit dans des écrits que la foule en liesse se réjouir de cette déclaration. Elle qui avait été forcée à la conversion par le décret des fils de Constantin et qui n'avait accepté que le christianisme comme l'ajout d'une divinité plutôt que d'avoir passé par une repentance. Elles avaient enfin retrouvé Artémis sous une autre forme, Marie. Donc, Paul les rassure que Jésus-Christ est quoi qu'on a lu, au-dessus de toute autorité, de toute domination, parce que ces gens-là étaient confrontés à cela. Donc, ça ne devrait pas nous faire peur. Et au-dessus de toutes ces incantations-là magiques, au-dessus de toute puissance occulte, voire démoniaque, au-dessus de toute déesse ou de toute divinité. Christ est le maître régnant, le Seigneur des Seigneurs. L'Église peut être assurée, sans crainte, que sa puissance nous donne la force de vivre notre vie chrétienne là, aujourd'hui, en 2021, puis on se rend jusqu'à 2022, là. Malgré qu'on nage à contre-courant, ce que je vous ai donné jusqu'ici, c'est que je vous ai dit, il faut investir. Les gens disent, je ne trouve pas la force, c'est trop difficile. Il faut investir temps, consécration, temps de prière, voire temps de jeûne, et ainsi de suite, parce que naturellement, ben, quand on investit, c'est la loi de la semence. Si tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Soyons clairs, c'est la loi du marché des investissements. Tu ne peux pas tirer des intérêts sur l'argent que tu n'as pas déposé, à moins que ce soit malhonnête, que ce soit pyramidal. OK? Soyons bien, bien clairs. Les versets 22 et 23 que j'ai le temps de prendre, ma montre est disparue sous ma pile de papier, que j'ai le temps de prendre avec vous, va nous assurer de ces choses-là par la présence de Christ. Il a tout mis sous ses pieds. On revient à Éphésiens 1, verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Avant de partir de cette terre, on parle physiquement, Christ a dit dans Matthieu 28, « Tout pouvoir ou toute autorité m'a été donné sur la terre comme au ciel. » Et ça, c'est une chose. Au ciel, Christ ne manque pas d'autorité. Là. Comme au ciel, sur la terre aussi. Donc, il n'y a rien qui nous arrive. Il n'y a rien qui fait obstacle à Dieu au ciel. Et ce qui peut vous paraître difficile ici, je vous ai donné tantôt en exemple la vie de Paul, tout ce que Paul a passé. Est-ce que Dieu aurait pu éviter tout ça à Paul? Tout à fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? On pourrait regarder plusieurs raisons pour cela, dont le péché qui est rentré dans le monde. J'ai dit, je disais à des gens, Dieu peut tout, mais Dieu ne fera pas tout. Parce que Dieu nous a donné une liberté. Le Seigneur nous a laissé un libre choix, un libre arbitre. Quelqu'un a le choix de faire bien ou de faire mal. Si vous regardez dans Actes des Apôtres, toujours, qui est l'histoire de la progression de l'Église, pendant que Pierre est en prison et Pierre est sûr d'être assassiné, pourquoi? Parce que Jacques, quelques versets avant, est passé au fil de l'épée. L'apôtre Jacques est passé au fil de l'épée. Et Pierre doit dire, il va m'arriver la même chose. Jacques est passé au fil de l'épée. Pierre est libéré de prison par un ange. Est-ce que vous comprenez, vous, pourquoi un plus que l'autre? Moi, en tout cas, je ne peux pas lui donner une explication qui serait satisfaisante. Dieu est Dieu. Il nous a laissé un libre choix. Les gens l'exercent bien ou l'exercent mal. Il y a aussi une liberté qu'il y a dans le monde aux gens de nous faire des fois du bien ou même de nous faire du mal. Soyons clairs. D'ailleurs, dans Genèse, Dieu dit à l'homme qu'il lui donne une autorité sur la terre. Il lui donne la gestion. Allez lire à l'homme et à la femme. Il va lui dire, tu vas chasser les poissons, les bêtes. Il va lui donner, à chasser ici, c'est prendre le contrôle, régner. L'homme n'a pas eu un bon résultat. Là. Il est en train de démolir la boule. Mais soyons clairs, quand Jésus vient sur la terre, lors des tentations, une des tentations que vous trouvez dans les évangiles, il dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous ces royaumes, car ils m'ont été donnés. C'est ce que le diable dit. Ce n'est pas Dieu qui a donné, là. Ce n'est pas Dieu, c'est quelqu'un d'autre. Il dit, car ils m'ont été donnés et je les donne à qui je veux. Ouch, mais c'est ça. Ça ne veut pas dire que la structure n'est pas voulue de Dieu. Ça veut dire celui qui en prend possession de la structure. La gouvernance, d'ailleurs, même mais Christ revient, il va avoir une gouvernance. Une gouvernance théocratique, mais il va avoir un gouvernement. Il y a une gouvernance. Ça fait marcher, du moins, ça devrait faire marcher avec ordre. Équilibrer les choses, distribuer les richesses plus équitablement et ainsi de suite. Mais ceux qui s'en parlent de la gouvernance, et je ne vous dirai pas, j'ai eu une discussion à un moment donné avec quelqu'un qui vient d'un autre pays, puis il disait, c'est les Américains qui ont fait ça. Donc, tu mélanges les choses. À un moment donné, j'ai parlé juste de la gouvernance dans son pays. Et j'ai dit des choses claires qu'il ne pouvait pas nier qui sont arrivées de notre époque. C'est aucun autre pays que les gouvernants de ton propre pays qui ont fait ça. Je dis, il faut amender des choses, voir les choses comme elles sont et non pas rejeter la faute sur d'autres si on veut que quelquefois que les choses changent. Pourquoi je vous dis ces choses-là? Le maître absolu de tout, c'est Christ, mais Christ a donné une gouvernance. Si la gouvernance est mal gérée, si la gouvernance, c'est pour ça qu'il va revenir un jour pour arrêter ces gouvernances-là, mais pour l'instant, oui, à cause du péché, les gens meurent, entre autres. À cause du péché, les gens sont malades. Je ne parle pas du péché, je parle du péché. Et les chrétiens, un jour, vont être. La persécution va devenir en mode. Dans certains pays, d'ailleurs, elle l'est. La présence de Christ en nous n'empêchera pas tout, soyons clairs. La présence de Christ en nous va nous donner la force de. C'est différent. Par sa force, à lui, par la vertu de sa force. Les versets 22, il a tout mis sous ses pieds. C'est pour montrer qu'en fait, rien n'échappe au Seigneur. On ne comprend pas tout, mais rien n'échappe au Seigneur. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. On est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. dans Hébreux chapitre 2, verset 14, qui nous rappelle que Christ a écrasé par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort. Ça ne veut pas dire que les gens ne meurent plus. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que le diable, que le pouvoir sur la mort, c'est-à-dire de la crainte de la mort, Christ est venu pour changer la chose. Aujourd'hui, un enfant de Dieu qui meurt, en fait, c'est juste son corps qui n'est plus là. Lui, il est toujours aussi vivant. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle nous dit que pour Dieu, c'est écrit dans Hébreu, toujours, elle nous dit que pour Dieu, que ce soit Moïse, Abraham, pour lui, tout le monde est vivant. Là. Soyons clairs. C'est pour nous que les gens ne sont plus là. Dans Matthieu 23, 9, on va aller le chercher. Matthieu. Et le verset 9. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Donc, on ne devrait rien craindre. Quand on parle d'appeler personne, on ne parle pas de plus appeler votre papa, papa. Non. Père, ici, ne revêt pas le titre à ce niveau-là, mais plutôt directeur, celui qui dirige ta vie. Ben, c'est Dieu qui est notre Père. C'est lui qui devrait diriger notre vie à ce niveau-là. Donc, Jésus règne sur l'Église. L'Église, ce n'est pas un club social. L'Église, les responsables, n'a de valeur que dans la mesure où elle reflète la Bible, elle reflète la pensée de Christ, soyons clairs, telle que la parole de Dieu le révèle. Si je vous demandais, est-ce que le Seigneur est dans vos vies? Probablement, on répondrait tous un oui solennel. Est-ce que Christ est dans vos vies? Tout le monde dirait oui, de manière solennelle. Est-ce que sa vie dans ta vie change quelque chose? Est-ce que la question qu'il faut se poser, est-ce que dans les moments les plus difficiles, est-ce que tu es capable quand même de sentir Christ dans ta vie? Dans les moments de tentation, est-ce que tu es capable de sentir Christ dans ta vie? Lorsqu'on a des choses difficiles à faire, je disais souvent, je parle encore des fois avec mes autres confrères, pasteurs, puis il y a des choses des fois dans une église qui sont difficiles à faire. Reprendre quelqu'un, dire à quelqu'un, écoute, tu vis dans le péché, mon ami. C'est plus difficile à faire parce qu'on aime les gens. Mais l'on doit et on se doit personnellement à ce que nos vies reflètent la parole de Christ. Pour cela, on revient dans notre Éphésiens. La Bible y va quasiment toute seule. Le verset 19, « Qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Elle va se manifester avec efficacité, je vous l'ai dit, à investissement. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Là, je vous dis tout ce qu'on a pris aujourd'hui, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Tournez dans Matthieu, chapitre 18, versets 15, 16 et 17. La parole de Dieu dit, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. » L'Église n'était pas formée encore.
C'est une manière de fonctionner qui nous a été donnée. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen, un publicain. Ce n'est pas mis en pratique, ça, dans les églises. Et je vous le dis tout de suite. Des gens, si on ferait ça, soyons clairs, on passerait pour vraiment des méchants. Moi, Marquis, je n'aurais pas de problème avec ça. La parole de Dieu dit, si tu vois ton frère pécher, puis il va même dire dans un autre évangile, et je ne parle pas, on ne parle pas là, tu as vu ton frère jeter son papier à terre au lieu de le mettre dans la poubelle. Là. On parle, tu as vu pécher, tu le reprends. S'il vit dans le péché, tu le reprends. En toi et lui. Écoute pas, tu prends deux ou trois témoins. Écoute pas, tu le dis à l'Église. Écoute pas l'Église. Ce qu'on vient de lire là, non? Soyons clairs. Il est nécessaire de considérer quelquefois telle ou telle personne comme étrangère à l'Église. Les Éphésiens se conduisaient de façon digne. Aujourd'hui, souvent dans les églises, on a des gens qui se conduisent de façon plutôt cavalière et qui prennent la vie chrétienne de façon légère. Un jour, on devait arriver à l'église de Laodicée. Je n'ai pas la certitude, mais je crois qu'il y a beaucoup de signes qui sont là, qu'on serait rendu peut-être à cette époque-là de l'église. Il y aurait deux églises qui marcheraient ensemble sur la terre. Philadelphie et Laodicée, à un moment donné, il y en a une qui va partir et il va juste rester Laodicée. Et soit dit en passant, le terme grec de Laodicée veut dire « volonté du peuple ». Et son sous-thème veut dire « nous nous révolterons », tandis que Philadelphie veut dire « fidèle ». Philadelphie veut dire « véritable ». C'était des villes, oui, qui portaient ce nom-là, mais les noms avaient des significations. Donc, les chrétiens éphésiens, parce que c'est ce que je voulais qu'on voit aujourd'hui, on est à veille de terminer, c'est des chrétiens qui, contre vent et marée, je vais dire ça comme ça, restent bien ancrés, restent fidèles. Parce que c'est facile? Non, parce qu'ils ont fait une décision et ils s'y campent. Parce qu'ils ont donné leur vie à Christ et ils ne la reprennent pas. Ce que je vous ai lu tantôt dans Matthieu, où ça dit, si quelqu'un pêche, et je donnerai des précisions si quelqu'un viendra me voir avec ça, là, mais sans rentrer dans les détails, si quelqu'un pêche, reprends-le en toi et lui seul, après ça, toi et deux ou trois témoins, après ça, toi de deux, trois témoins et l'Église, puis après ça, vu comme un non-croyant. La parole de Dieu ne nous dit pas qui est un non-croyant. Elle dit qu'il doit être vu de cette façon-là afin qu'on éprouve de la honte. Paul va en parler un peu plus loin dans l'Épître aux Corinthiens aussi. Afin qu'il ressente de la honte et qu'il réforme sa vie. Vous savez, aujourd'hui, dans les églises, les gens ne veulent pas créer de remous. Dire, on adore le Seigneur, on est tous là, on est tous frères, et on attend de plus en plus cette pensée-là écuménique. On est tous frères dans le Seigneur de toute façon. Peu importe les pratiques qu'on a, il y a un seul Dieu, que tu lui donnes tel nom, tel nom, tel nom, que tu l'appelles Artémis, ça ne nous dérange pas. On est tous frères. Il y a quelqu'un qui nous disait une fois, on est tous frères. Non. On a tous Dieu pour Père. On est toutes les créatures de Dieu. Certains ont choisi que Dieu devienne leur Seigneur. D'autres, ce n'est qu'un Dieu lointain qu'ils vont rencontrer le plus loin possible si ça ne serait que d'eux. Mais soyons clairs, on n'est pas tous frères. On a tous. Oui, on partage notre humanité, mais mon frère n'est que mon frère que dans la vérité. Par même, on dit « ouch ». Mon frère ou ma sœur n'est mon frère ou ma sœur que dans la vérité. Comme vous voyez à l'Église,
Notre église est plutôt multiethnique. Je parlais avec le pasteur Florent cette semaine et je lui disais, c'est le modèle biblique. On était d'accord, c'est le modèle biblique. On sait que dans les églises, maintenant, il y a beaucoup de clivages. Hein? Tous les Haïtiens ensemble, tous les Espagnols ensemble, tous les Québécois ensemble. Je ne suis pas en train de dire que ces gens-là pêchent, là. Soyons clairs. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que le modèle biblique, je crois qu'il est multiethnique. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas Québécois. Ne m'en déplaise. Mais Dieu n'est pas plus Espagnol. Il n'est pas plus Haïtien qu'Africain. Pas plus Chinois qu'Européen. Dieu est juste Dieu. Il est venu dans une nation, oui. Mais quand les gens me disent Jésus est juif, il est venu dans la nation juive, il est venu chez les siens au niveau de l'appartenance ethnique, mais Dieu n'a pas d'ethnie. Soyons clairs, ce n'est pas un humain, il n'y a pas une ethnie comme telle. Dieu n'est pas juif, juste Dieu, soyons clairs. Dans son naissance humaine, Jésus était juif, mais pas dans son essence divine. Donc aujourd'hui, sous prétexte, et pourquoi que j'ai pris ça comme sujet pour avancer, c'est parce que soit que les chrétiens sont trop complaisants, ils disent « Ah, moi, je ne peux pas parce que je suis fait dans la foi » et les versets nous disent « c'est pas ça ». Ou que les chrétiens ne veulent pas faire de remous. On va dire, Seigneur va le changer, on va attendre. Dernièrement, j'ai prévenu quelqu'un sur une pratique de quelque chose, je dis, c'est contre-biblique. Moi, en tant que pasteur, je me dois de t'avertir. Il n'est pas entré dans l'ordre qui nous est donné ici dans Matthieu 18, là, les versets 15, 16, 17. Il n'est pas entré là-dedans. D'ailleurs, moi-même, je ne veux pas traîner sur la place publique devant l'Église. Les gens et leurs pratiques, soyons clairs. Mais par contre, on peut dire clairement que je peux désapprouver publiquement, sans mentionner, on peut désapprouver. Mais la parole de Dieu nous dit qu'on peut aller jusque-là. On peut aller jusque-là. Dis-le à l'Église. S'il n'écoute pas l'Église, le verset dit qu'il soit pour toi. Pour toi, on ne parle pas de Dieu. Pour toi, comme un païen et un publicain. En voulant dire, arrange-toi pour qu'il éprouve la honte. Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un vit d'une certaine façon et il n'est pas repris? Il fait sa petite vie et rien ne se passe. Ben, il va dire, c'est comme ça qu'on vit dans les églises. C'est accepté. C'est acceptable. Tandis que si on dit à la personne, ouais, on t'aime quand même, mais ce que tu fais est inacceptable. C'est inacceptable, point à la ligne. Les Éphésiens, l'Église d'Éphèse, avaient compris ce que Christ s'attendait de son Église. Ils avaient compris la manière dont ils devaient vivre. Ce n'était pas une sorte de club naviguant sur l'émotion du moment. C'était des gens qui avaient pris une décision et qui en payaient le coût de leur décision. J'ai déjà vu des gens me dire, « Mais moi, pasteur, je ne peux pas faire ça à mes enfants, je ne peux pas prier avant de manger à la table, je me suis converti à ça, mes enfants n'aimeront pas ça. » Mais eux, les enfants vont avoir des sujets de conversation tout à fait, déphasés pour un enfant de Dieu. Ils vont parler des choses tout à fait choquantes comme une normalité. Moi, de lui dire à ce chrétien-là, « Mais tu es chez toi. Là. C'est ta bouffe qu'on est en train de manger. » Tu as le droit de dire, chez moi, ça se passe comme ça. Je ne te dis pas de prier, je te dis, moi, je prie avant de manger. Moi, mes petits-enfants viennent chez moi. Mon garçon vient chez moi, ils ne sont pas convertis. Et quand on sert à manger, ma belle-fille est là, ils sont tous là. Puis on va prier avant de manger. Je ne suis pas en train de vous dire qu'ils prient. Je suis en train de vous dire qu'ils respectent ce que je crois. Et quand un de ses enfants veut manger, la maman dit, grand-papa, il prie. On va avoir du respect pour ce que le grand-papa fait. Ou le papa va le faire. Parce que ils connaissent ma position ferme. Si ta position est ambivalente, tu vas avoir un résultat ambivalent. Soyons clairs. Et avec tes voisins, et avec ta famille. Si ta position est ferme, et là, je ne vous parle pas d'être intransigeant, je vous parle d'être ferme. Ces gens-là, à Éphèse, vivaient d'une façon ferme. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de reproches qui est fait à l'Église d'Éphèse. Parce qu'ils vivaient de façon à honorer le Seigneur. Est-ce que le Seigneur est avec nous au moment où on donne cet enseignement-là? Ou est-ce qu'il est en marge de nous? Il nous attend sortis. La parole de Dieu dit qu'il est en nous. Il remplit chaque chrétien parce qu'on est le corps de Christ. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 27, je vais m'arranger de terminer à l'heure pour que j'aille voir mon frère à la maison. Dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Qu'est-ce que ça évoquait pour les Éphésiens? Qu'est-ce que ça devrait évoquer pour l'Église avec un grand E, qu'on est le corps de Christ, qu'on est chacun des membres de ce corps-là? Ça devrait évoquer dépendance à la tête, c'est-à-dire à Christ pour bouger. Complémentarité, on devrait se compléter les uns les autres. La plénitude de Christ en nous, dans ses enfants. Christ devrait transparaître pleinement dans notre union avec lui, alors que nous vivons une foi qui nous est commune. Ces choses-là devraient être là. Je vous donne une histoire qui n'est pas tirée de moi, naturellement. Vous savez que ce cours-là, je l'ai puisé. Une femme vivait dans la capitale d'un pays au nord de l'Europe, non loin du palais royal. Sa fille, gravement malade, désirait ardemment les raisins qui poussaient dans les jardins royaux. Et elle voulait aussi avoir certaines choses, la jeune fille malade. La dame va au magasin pour acheter des raisins, pas de raisins. Je vous le paraphrase rapidement. Ils n'en ont pas. La mère se souvient tout à coup qu'elle avait vu en traversant le parc du Palais Royal avec les serres qui étaient chauffées, même si ce n'était pas l'époque des raisins. Il y avait des raisins là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'arme de courage. Elle va trouver le jardinier en chef pour lui demander de lui en vendre une ou deux grappes. Elle se heurte à un refus catégorique. Le jardinier lui dit, le roi n'est pas un marchand. Donc, retournez chez vous. La pauvre femme sort déçue. Quand un monsieur qui l'avait tout entendu s'approchait d'elle, le jardinier, a raison, dit-il, mon père qui est le roi n'est pas un marchand, mais s'il ne vend pas son raisin, il peut le donner. Sur ces paroles, il choisit plusieurs belles grappes de raisin qu'il plaça dans un panier et le donna à la mère, émue et reconnaissante. Le salut est gratuit. Le salut vous a été donné gratuitement. Les Éphésiens en avaient bien conscience. Mais ils menaient une vie digne de ce salut-là. L'argent ne pouvait pas acheter les raisins de la petite fille. Même si elle aurait eu beaucoup d'argent, c'est hors saison. Mais le fils du roi pouvait lui en donner. Quelqu'un de proche de la royauté pouvait en donner. Christ a pris une chair, a vécu, Christ est Dieu incarné, qui a pris une chair je répondais à une question vendredi passé d'une dame venue d'une autre église avec quelqu'un d'autre qui me l'avait amené chez quelqu'un pour... je parlais de l'unicité de Dieu. Et je lui ai dit, Dieu s'est inséré dans le temps à travers Christ. En cela, les gens vont dire fils de Dieu. Mais Dieu le Fils, cette expression-là, vous me nommez, madame, n'existe pas dans une Bible. Dieu le Fils n'existe pas dans une Bible. Fils de Dieu existe, mais pas Dieu le Fils, ça change toute la donne. Mais je dis, ça ne vous empêche pas de recevoir tous les bienfaits, même si vous ne comprenez pas tout. Christ a donné sa vie pour nos péchés. Les meilleurs efforts, tous les mérites que tu pourrais avoir à mener vie chrétienne ne changeront pas que le salut est gratuit. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. C'est avec ça, je vais vous laisser pour ne pas vous vous sentiez chargé. Votre salut est gratuit, mais rien ne nous empêche de mener une vie digne de ce salut-là. Même si l'argent n'a pas pu l'acheter, même si les prières, nos efforts ne peuvent pas l'acheter, ce salut-là, Dieu s'attend à ce qu'on se comporte comme des fils, des filles dignes de ce salut-là, parce qu'on est son corps. Les Éphésiens savaient mener vie chrétienne conforme à la parole. Quand vous lisez la parole, qui voyez-vous? Est-ce que vous voyez Christ en action? Oui. Que voyez-vous? Est-ce que vous voyez ce que Christ demande de nos actions? On a fini le chapitre 1 aujourd'hui. On va rentrer la semaine prochaine dans le chapitre 2, Dieu voulant. Qu'est-ce qu'on a vu dans les 23 versets du chapitre 1, qui tout bien ça a duré tout de même un bon 2 mois. Qu'est-ce que vous y avez vu? Que Christ nous donne tout ce qui est nécessaire. Et là, je ramène tout le chapitre. Que Christ nous donne tout ce qui est nécessaire à notre vie, à notre marche, à notre consécration, y compris la force nécessaire de lutter contre le péché. Nous a donné, parce que lui est la tête, autorité, mais pas une autorité qu'on fait ce qu'on veut avec, une autorité dans les normes d'une Bible. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? C'est que Dieu veut se manifester par sa force en nous, pas nécessairement une force comme on l'imagine, mais juste la force de mener une vie digne, une vie style Éphésien. Tantôt, je vous ai lu un peu le CV de Paul, si vous voulez. Par quoi Paul a passé pour mener vie chrétienne, pour annoncer l'Évangile. C'est ce qu'on va parler la semaine prochaine, de communiquer et de comprendre l'Évangile, de bien la comprendre. Je vous ai donné l'exemple de Paul, puis l'exemple des Éphésiens, pour qu'on puisse se lancer dans le chapitre 2, en voyant un peu que la chose n'est pas inatteignable. Parce que Dieu nous donne les capacités de faire ce qu'on a à faire. D'accord? Donc, on va arrêter ici. La semaine prochaine, on va prendre Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 1, qui dit « Vous étiez morts par vos offenses. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Vous allez voir quel don ça devrait vous pousser vers l'avant. Ça nous a été transmis par le Seigneur. Donc, on va incliner la tête, on va prier et on va reprendre notre étude la semaine prochaine. Seigneur, je veux tout simplement remettre ton peuple entre tes mains, Seigneur, te demandant ta bénédiction sur chacun d'eux. Seigneur, que la parole qui a été donnée, Seigneur, pendant tous ces 2 mois, Seigneur, que durait le chapitre 1, puisse être réfléchie, Seigneur, amenée à leur mémoire pour comprendre que tu demandes, Seigneur, mais tu équipes. Tu demandes, Seigneur, mais tu donnes la force. Tu demandes, Seigneur, mais tu n'es pas le Dieu qui nous laisse nous débattre. Mais tu es celui, Seigneur, qui donne la vertu de sa force, Seigneur, afin que nous puissions accomplir. Seigneur, je te demande, Seigneur, de nous donner des cœurs humbles et doux, Seigneur, de la sagesse, Seigneur, pour marcher dans ta présence. Je remets ton peuple entre tes mains, Seigneur. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Donc, soyez bénis. Si vous avez des questions, on va y répondre maintenant. Sinon, on va aller à la maison. Je vais juste fermer l'engin.